Bonjour. C'est un numéro qui a été spontanément décidé. Christian Hoffmann en a eu l'idée, Gérard Poumier l'a validé. Gérard, qui est directeur de la clinique lacanienne, pour juste dans la sidération qui a suivi des attentats de novembre 2015, pouvoir réagir, que les analystes puissent amener une parole dans cet effet de sidération du réel. Donc, 17 collègues du monde, puisqu'on a des collègues d'Amérique du Sud qui ont décidé d'écrire un texte. Il a été publié très rapidement en 3 mois. Voilà. Et j'ai été, moi, assez surprise. J'ai aussi fait un article que j'ai intitulé L'Occident au pied du mur. Et en lisant ce travail de tous ces collègues, j'ai eu la joie de sentir qu'on avait tous œuvré dans un même sens pour essayer de dire ce qui dysfonctionne actuellement dans nos sociétés occidentales et qui peut pousser à la haine et à la guerre. Alors, nous avons repris le titre connu Pourquoi la guerre, qui était un texte qui a été publié en 1933 à la Société des Nations et qui était un échange entre Freud et Einstein à la demande d'abord du comité des arts et des lettres de cette société qui souhaitait avoir un échange et de publier des correspondances entre les représentants qualifiés de la haute activité intellectuelle de l'époque. Donc, Einstein avait été pressenti et Einstein souhaitait tenter de prévenir la catastrophe à venir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a joint Freud et ils ont échangé un courrier. Et donc, ce texte a été publié simultanément dans 3 pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, et a été immédiatement censuré en Allemagne. Voilà. Donc, il a été choisi de reprendre ce titre en hommage à ces deux penseurs, voilà, pour tenter, nous aussi, dans ce début du XXIe siècle, de penser et de prévenir peut-être les catastrophes en cours et à venir aussi. Donc, ces événements survenus depuis janvier 2015, perpétrés par des jeunes combattants en plein Paris au nom d'une guerre contre l'Occident, guerre qui avait débuté en 2001 avec la destruction des Twin Towers à New York, donc nous a poussés tous à prendre la parole. Le mot guerre est un héritage de l'Antiquité. Sa racine francique est vera avec un W, qui a donné war en anglais et qui signifie chaos, confusion. En latin, bellum, qui donnera belliqueux, et en grec, qui signifie combat, disposea. L'idée de réagir donc dans cette urgence donc, a donné lieu à ce numéro. À cette époque, moi je lisais René Girard et notamment un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle Achever Clausewitz. Et c'était juste à Noël 2014. Là, j'en parlais chez les amis chez qui j'étais, puisque j'avais été frappée par certaines phrases assez fortes, nous annonçant une montée de la haine dans une poussée aux extrêmes, qui n'allait nous entraîner que vers la catastrophe. Donc, ce que nous annonçait René Girard il y a 10 ans dans cet ouvrage semble être en train d'éclore. Il ne le verra pas parce qu'il est décédé juste au moment des attentats de novembre. Donc, ce qui frappe en ouvrant ce numéro d'articles collectés donc auprès de plusieurs analystes d'écoles différentes et de pays différents, c'est cet effet de même voix. C'est le vent de concert dans un travail effectué en coïncidence de pensée pour dénoncer donc ce qui dysfonctionne dans nos sociétés. Lacan, dès les années 60, dans son séminaire L'éthique de la psychanalyse, prophétisait déjà que nous étions dans une civilisation de la haine qui ne courait qu'au pied du mur de sa destruction. Freud a conceptualisé son concept de pulsion de mort en 1920, dans un texte important intitulé Au-delà du principe de plaisir. Il a effectué ce travail à la suite de son suivi auprès des graves névroses de guerre qu'il avait suivies à la suite de la Première Guerre mondiale. Mais il s'est heurté à l'époque à de nombreuses résistances ou de contre-écoutes de la part de ses confrères de l'époque. Et il disait, Freud disait avec humour, les pauvres petits ne peuvent pas supporter d'entendre parler de la mort. Ce principe de ne pas vouloir écouter ou de non-écoute se met en place quand ce qui est entendu réveille trop d'angoisse inconsciente. Donc, cette publication en 1933 a été donc censurée. Et donc, nous avons repris ce titre pour pouvoir penser à la suite de l'effraction de ce réel, penser donc l'irruption de cette terreur dans la civilisation, ce mauvais mot, terreur, qui alourdit le surmoi et fait symptôme, justifiant la mise en place de formes inédites de contrôle, de surveillance des citoyens par l'émergence d'un état de sécurité et de surveillance, justifiant la généralisation de la peur, de la compulsion imaginaire à se faire peur alimentée par les médias, qui participent du décervelage contemporain, participant à la prolifération de fantasmes d'anéantissement, justifiant le meurtre à l'aveugle de ceux qui la menacent, dans un retour à un mode de fonctionnement archaïque, schizoparanoïde, disait Mélanie Klein, où il n'y a plus de distinction entre les pulsions de vie, les pulsions libidinales et les pulsions de mort. L'œuvre freudienne, elle a tendu une réflexion entre deux points fondamentaux, le meurtre du père d'abord, ce grand mythe oedipien à l'origine du développement de la culture, et l'instinct de mort ancré au plus profond de l'homme. Intimement lié au pulsionnel, cette pulsion de mort opère en silence, par le biais de la répétition des mauvaises rencontres, des mauvaises expériences, des expériences du trauma, la tuquée. Elle opère aussi à partir de la construction des formes pour les abolir. Pour Freud, ce ne seront pas les pulsions sexuelles, mais les pulsions de vie qui s'opposeront aux pulsions de mort. Et chaque être humain est soumis à cette bipolarité, pulsion de vie, pulsion de mort, paradoxe, hein, qui le fait mener sa vie sur un fil entre la construction et la destruction. Donc l'ombre de la mort pesait autour de Freud dans cette période d'après-guerre où l'Europe avait été décimée par la Première Guerre mondiale et dans cette Middle Europa en crise avec les conflits sociaux, un affrontement déjà des nationalismes, donc vous voyez que l'histoire se répète, et où l'antisémitisme et la haine croissaient devant les difficultés économiques de l'époque, de la culture politique libérale et l'évolution démographique de Vienne. Cet apport freudien développé depuis la fin du XIXe siècle, à la suite des deux grandes mutations de l'histoire, la sécularisation de l'État et l'apparition de la mort de Dieu, aurait pu, et c'était son vœu, amener une lumière et une clarté décisive à l'homme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, de façon à ce qu'il puisse construire une paix durable, la paix éternelle, selon la thèse de Kant, dont Paul-Laurent Hassoun, dans son article, fera un impératif de la raison politique. Mais Freud va réviser cette lecture des rapports guerre-paix, donc à la suite de cette Première Guerre mondiale. Et Freud et Lacan ont accompagné dans leur pensée toutes les mutations sociales de leur époque. Les mutations de la civilisation d'aujourd'hui semblent s'accélérer de manière exponentielle depuis les années 80, avec les mutations de la famille, l'émergence du sujet de la science et aujourd'hui du sujet digital, le retour en force du religieux provoquant le véritable séisme auquel nous assistons. Et depuis cette semaine, j'ai rajouté quelque chose, l'effondrement des deux piliers de la culture dont le processus de développement se déployait de manière continue à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire, ces deux piliers de la culture, c'était le renforcement de l'intellect, qui semble voler en éclat avec le renversement populiste des élites auxquelles nous assistons, et l'intériorisation du penchant à l'agression, qui semble aussi totalement renversée avec ses passages à l'acte très fou. L'attentat de Nice en étant un exemple. Mettant en scène des héros sadiques, selon le terme de Deleuze, hein, c'est-à-dire de provoquer un crime qui serait le pire possible. Donc, au début du XXIe siècle, nous ne sommes pas au rendez-vous, hein, dit Mustapha Safouan, qui a 90 ans, dans son dernier livre « La civilisation post-dipienne, désir et finitude ». Nous ne sommes pas au rendez-vous de ce qu'aurait pu apporter la connaissance, la raison, l'assomption de la division subjective. Donc, j'ai suivi trois axes de développement qui me sont apparus là, en lisant tous ces articles, donc 17 articles, ou trois fils pour rendre compte de ce travail. Le fil de l'histoire et de la politique, que je vais vous déployer, celui de la science et celui de l'extrémisme islamiste qui fait aujourd'hui symptôme. Donc, sur le fil de l'histoire et de la politique, chaque génération renouvelle ses prétextes à laisser œuvrer la pulsion de mort, dit Gérard Pommier. Des prétextes économiques et politiques sont avancés, aujourd'hui plus encore qu'hier, pour pousser au pire, au nom d'un père divin. Et la nouveauté de la violence d'aujourd'hui nous oblige à penser. Cette violence déchaînée au niveau de la planète atteint des sommets d'intensité et d'imprévisibilité jamais égalés auparavant. La violence donc, qui produisait du sacré pour René Girard et que je reprends dans mon article ne produit plus rien qu'elle-même, donc dans une montée aux extrêmes qui a détruit le Moyen-Orient et qui menace aujourd'hui le monde. Comme s'il fallait que le Moyen-Orient soit livré à une guerre sans fin, dit Gérard Pommier dans son article, dénonçant les politiques occidentales dans le soutien à certains régimes religieux fonctionnant de manière sectaire contre les régimes laïcs, alimentant ainsi le feu de la haine. La France est-elle étrangère à ces comportements politiques, faisant fi de l'éthique et préférant échanger à coups de pétrodollars un certain renflouement économique, elle ferme les yeux sur les risques d'engagement futur pour le pays. La stratégie occidentale est une stratégie de reconquête sur les pays qui s'étaient libérés et laïcisés. Une stratégie coloniale, dit un philosophe que j'ai lu, d'origine sud-africaine, qui m'a intéressée, Achille Mbembe, philosophe et historien, qui pense possible une sortie de la démocratie. Pour lui, je vous le cite, le commerce négrier et la colonisation coïncidèrent en grande partie avec la formation de la pensée mercantiliste en Occident, quand ils n'en furent pas purement et simplement aux origines. Ces deux modalités de repeuplement de la planète du XVIe au XIXe siècle ont amené à une nouvelle partition de la Terre, avec au centre les puissances occidentales et en périphérie à l'extérieur, les domaines de la lutte à outrance, voués à l'occupation et au pillage. La guerre coloniale hantée par le désir d'extermination pour cet historien est par définition une guerre hors la loi, hors frontières. Et les trois principales sales guerres qui ont été celles de l'Indochine, de l'Algérie, de l'Angola et du Mozambique ont dénombré plus de 10 fois plus de morts du côté indigène que du côté colonial. Donc, démocratie et empire colonial ont une même matrice historique d'origine. Mais à l'aube du XXIe siècle, de nouvelles figures de l'exode apparaissent, de nouvelles dynamiques circulatoires apparaissent par le commerce, par les guerres, par les désastres écologiques et les transferts culturels de toutes sortes. L'Europe et les États-Unis restent des points de fixation majeurs des multitudes en mouvement. Jusqu'à présent, hein, qu'est-ce que ça va donner maintenant avec la fermeture des États-Unis. Christian Hoffmann s'est appuyé, lui, sur les travaux d'un politicien de Frédéric Gross pour dire que cette guerre qui n'est plus bordée par la politique, par le droit et l'éthique, nous oblige à penser cette illimité. Frédéric Gross propose le concept de guerre diffuse qui peut frapper n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Ce qui permet de lever la confusion entre guerre classique, guerre totale, guerre civile et cette nouvelle forme de guerre. La guerre classique permettait de soulager le sujet de ses symptômes par le déchaînement et la décharge de la violence, dans une certaine excitation de la violence pulsionnelle. Lacan l'avait remarqué et en avait parlé dans son texte de 1947, La psychiatrie anglaise et la guerre, donc une certaine jouissance. Elle permettait aussi de judiciariser la violence. Mais la guerre d'aujourd'hui, la guerre diffuse, l'a fait exister comme hantise permanente. La politique, le droit et l'éthique sont les trois axes sur lesquels la communauté peut s'appuyer pour vivre ensemble. Freud l'a fait remarquer dans son échange avec Einstein. Moi, je pense que ce qui laisse en instabilité aujourd'hui, c'est que de ce trépied, il n'y a plus que deux pieds. Il me semble que le pied de l'éthique est largement malmené. Freud nous a fait remarquer dans son échange avec Einstein que le droit est issu de la violence et que la communauté est régie par cette maxime « l'union fait la force ». Or, aucune société n'est possible sans la force liante de la parole et du langage. Et la paix contient aussi la guerre dans son fondement, hein, rappelle Alain Vanier. Donc, cette dictature de la raison rêvée par Freud n'est pas non plus sans danger. Et travaillant depuis une dizaine d'années avec la Chine et ayant approfondi cette pensée chinoise qui m'intéresse, je pense qu'il faudrait peut-être penser la guerre comme nous y invite cette pensée, dans cette mémoire du monde auquel il nous faudra peut-être aller recourir pour tenter de penser le devenir de l'humanité. Que cela pourrait se penser peut-être en termes de cycle d'alternance, hein, et d'accepter ces alternances de déconstruction et de destruction, selon le terme de Derrida, et reconstruction, un petit peu comme le yin et le yang, deux faces indésolidarisables. J'étais en Chine il y a 15 jours, je travaillais dans un hôpital et en fin de semaine de travail, il y avait un échange avec les Français et les Chinois et les collègues français se plaignaient de la diminution du rôle et de l'impact de la psychanalyse en Occident. Et notre consœur chinoise nous a dit très, très spontanément, et c'était très juste et ça va bien, elle nous a dit, mais on ne peut pas avoir été au sommet sans être ensuite en descente. Donc c'était totalement normal. Voilà. Une autre face de la violence aussi qu'a éclairé Gérard Pommier, et notamment dans son dernier livre sur le féminin, c'est cette question de jouissance dans le fait de féminiser l'autre, féminiser celui qui va être vaincu. Il propose, je fais une petite aparté, il propose une nouvelle définition de l'hystérie en disant que c'est une lutte du féminin contre le masculin inhérent chez chacun, hein, dans un processus jamais atteint. Et il compare les crises politiques à des crises hystériques, hein, où le dominant ne manque pas de féminiser et de jouir du dominé. Nous avons un bel exemple cette semaine aussi. Donc, sur toutes ces bases, se crée la communauté. Communauté qui s'organise par une certaine contrainte pour pouvoir vivre ensemble, hein, une contrainte de renoncer à ses pulsions les plus primaires, et dont la cohésion est assurée par des phénomènes d'identification et des sentiments entre les membres de la communauté. Donc il faut bien qu'il y ait un modèle idéal auquel on aura envie de travailler, d'adhérer, voilà, pour que les choses se construisent. Mais ces modèles d'identification vont être bien malmenés aussi, et donc cette stabilité est toujours menacée. Et la paix n'est peut-être que la continuation d'une violence qui s'exprime autrement. Freud parlait de déplacer la violence sur quelque chose qui pourrait la canaliser. Et notamment par la culture. Donc l'importance aujourd'hui de défendre la culture. Achille Mbembe parle de brutalité de nos démocraties. Et le système colonial et le système esclavagiste en ont représenté le dépôt amer. Walter Benjamin avait distingué violence légitime et violence illégitime, évoquant lui-même le statut des grèves. Violence légitime quand elle défend les droits des travailleurs, est-elle légitime aussi quand elle risque de faire plonger l'économie de son pays? Parmi ces articles, un m'a particulièrement intéressée, celui de mon collègue sud-américain, Joël Biermann. Dans le titre de son article, c'est « La problématique de la guerre dans le discours freudien ». Et il a repris tout le fil historique de l'Occident depuis la fin de la guerre froide, avec la dissolution de l'Union soviétique, cette chute qui a créé la surprise aussi hein, du mur de Berlin, moment de grand enthousiasme pour les jeunes dont j'ai fait partie, et où l'Occident se pensait dans un nouveau palier de civilisation, ouvrant sur une possibilité de la fin des guerres, et le fantasme naissant d'un marché qui pourrait se développer à l'infini. Les échanges commerciaux moduleraient dorénavant les relations entre les nations, et le nouvel ordre mondial établi avec les accords de Washington en 1990 allait être défini par la conjonction entre le néolibéralisme et les nouveaux stades de la mondialisation, entérinant la politique élaborée par Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis dès la fin des années 70. Certains théoriciens des années 90, dont je vous recommande la lecture aussi, Fukuyama sur la fin de l'histoire et du dernier Rome. Donc certains théoriciens héritiers de Hegel avaient même annoncé ce projet hein, de Hegel d'une fin de l'histoire, c'est-à-dire d'un avènement planétaire de la démocratie et qu'il n'y aurait plus besoin d'histoire. Donc un développement planétaire géré par les États-Unis alliés aux autres puissances dans le sens d'une expansion du marché à cette échelle planétaire. Or, l'histoire crée des surprises et en décide autrement, comme nous l'avons vu depuis la première guerre d'Irak en 91 et la suite que l'on sait, où, à la suite de l'intervention militaire décisive de l'Occident, nous assistons à une flambée du conflit latent chiite-sunnite, au vieil affrontement israélien-palestinien, au massacre des populations civiles, aux migrations en masse, au remaniement politique et reconfiguration régionale qui ont d'abord donné le printemps arabe, puis la guerre en Syrie, l'apparition du projet de constitution du califat, donc créant ce terrorisme qui a déplacé le front de la guerre sur les civils d'autres continents et créé des fractures dans la démocratie. J'en discutais avec une consoeur syrienne, Rafa Nached, que j'avais rencontrée à Paris avant la guerre en Syrie, qui a expérimenté les prisons de Bachar el-Assad et qui a pu en sortir grâce aux pétitions que l'on avait faites à l'époque. Et elle m'a dit « ce conflit s'arrêtera quand les grandes puissances en auront décidé après redistribution de la cartographie ». Donc, nous avons franchi un nouveau palier d'historicité, dit Huntington dans les années 90, relancé et modulé par l'impératif du choc de civilisation. Donc nous sommes vraiment très loin de ce que Einstein proposait à Freud dans son échange, d'un projet de renoncement des États, de la puissance des États pour le pouvoir, comme prévention possible. Freud et même Lacan, plus tard, proposaient la création d'instances suprêmes, c'est-à-dire d'autorités au-delà des États qui puissent œuvrer pour la sécurité et l'avenir de la planète. Voilà, c'était leur vœu, hein, le plus cher. Voilà, qui restera... être simplement un vœu. Donc, Freud, dans ce texte aussi, affirme que ce sont les relations conflictuelles établies entre ces différents registres du droit, de la violence et du pouvoir qui ont toujours modelé l'histoire de l'humanité et constitué elle-même la civilisation. Donc cette polarisation pulsionnelle est constitutive de la vie, et interdire la violence par la raison reviendrait aussi peut-être à mettre la vie en danger. Dans son écrit sur le problème économique du masochisme, Freud dit que c'est l'expulsion de la pulsion de mort par la pulsion de vie qui à la fois est condition de la vie, mais constitue aussi cette pulsion de destruction, hein, donc ce besoin d'attaquer et de détruire l'autre. Et l'établissement de la vie ne serait possible que par la promotion de cette pulsion de destruction et son corollaire, l'acte d'expulsion. Donc le paradoxe du sujet humain se situe là, cette pulsion de destruction au nom de l'impératif de l'autoconservation traça son destin entre la vie et la mort. Françoise Dolto axait, elle, je l'avais repris dans mon livre là, sur la pulsion de mort. La pulsion de mort, elle la mettait dans le même sens au service de l'autoconservation. Elle la mettait au service de la préservation de la vie. Hein, voilà. Mais elle trouvait aussi une autre fonction, et c'est cette hypothèse-là qui m'intéresse et que je vais approfondir là, sur la question des travaux que je vais continuer à faire. Cette pulsion de destruction peut être aussi pervertie lorsqu'elle est désintriquée des pulsions de vie et au service d'une jouissance mortifère absolue, voilà, du côté donc de cette perversion. Voilà pour le fil histoire et politique. Je vais en venir au fil de la science, qui est aussi un sujet qui m'intéresse depuis quelques années. Ayant une formation scientifique au départ, j'en discutais avec un collègue, un ami hier soir, le développement et les interactions avec la psychanalyse m'ont intéressée. J'avais fait des colloques, je suis à Toulouse moi, mon cabinet est à Toulouse et j'avais organisé des colloques sur ces thèmes de psychanalyse, neurosciences, voilà. Donc ce sujet de la science, il est né en Occident au XIXe siècle, à la suite d'un courant de pensée philosophique qui, après un retour à Kant et à sa critique de la raison pure, le néo-kantisme, qui avait été déterminé à l'époque par l'aversion de l'idéalisme philosophique allemand, a confié aux sciences la gestion définitive et exclusive du savoir dans un courant nommé positivisme. Science qui occupera pour Lacan cette place du désir en fin de son séminaire l'éthique et qui serait peut-être à l'origine de nos mots contemporains. Ce courant a été scindé ce qui a fait la grandeur et la supériorité des sciences de la nature des XVIe et XVIIe siècles, qui étaient basées à la fois sur la migration des idées. On l'a vu avec la migration des jésuites en Chine et la migration des savoirs, et sur le fait que les scientifiques de l'époque étaient aussi des philosophes. Donc, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui. Le sujet de la science d'aujourd'hui s'élargit au sujet digital, hyper et interconnecté par la voie des nouvelles technologies, appuyé sur une nouvelle raison, que vous avez tous sur vos comptes Facebook, et cette raison algorithmique qui sert de support décisif aussi, il faut le savoir, à la financiarisation de l'économie. Nous sommes entrés dans l'ère de la suprématie du numérique avec l'apparition donc de cette raison numérique, c'est-à-dire une domination des codes et des chiffres poussant à l'abstraction du vivant, à sa dématérialisation, voire à son mépris. Le nouveau discours de la Silicon Valley ne tenterait-il pas, je l'ai travaillé ça le week-end dernier, après un travail qu'avait fait Gérard Pommier sur le discours d'un poète, Khlebnikov, ne tenterait-il pas une identification au père mythique du Logos, hein, se posant en discours du maître, dans une logique, cette logique numérique, qui ira même jusqu'à penser à votre place, et qui entraîne l'humanité dans un chiffrage de type psychotique. Les scientifiques d'aujourd'hui s'appuient sur une nouvelle attitude de savoir que Heidegger, voyant déjà que la technique nous échappait, avait qualifié de prétention mathématique, laissant de côté la dimension de l'humain dans une forclusion dénoncée par Lacan. Les excès que l'on a vus récemment dans les dérives financières qui gouvernent le monde en sont un exemple. Cette prétention toucherait peut-être à sa limite. La question est à poser. Donc, cette prolifération de la technique soumise aujourd'hui aux lois capitalistes dans un mécanisme de plus-value au fondement de l'aliénation de nos sociétés que dénonçait Marx a et aura des effets humains soumis aux lois du marché. Ces pratiques ouvrant la voie à un eugénisme libéral réglé par l'offre et la demande. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet exemple récent de ce nouveau-né trisomique né en Thaïlande par GPA et refusé par ses parents demandeurs du fait de sa pathologie. Tout ça questionne à nouveau la responsabilité éthique de ces techniques, heureusement encore interdites en France, mais c'est assez limité. Le discours capitaliste, rappelé Lacan, c'est la Werwerfung, le rejet en dehors de tous les gens du symbolique de la castration. Une machinerie capitaliste réinvestissant sans reste dans un processus indéfini d'accumulation qui nie le manque, alors que se construire comme sujet nécessite une acceptation et une remise à l'endroit de ce manque. On ne peut pas tout et on n'est pas tout puissant. Une société qui dénie le manque dans un mécanisme de défense, à mon avis, de défense maniaque, est animée par la pulsion de mort. Elle ne produit qu'un trou dont le fond s'élargit sans cesse en laissant une dette irréductible, sauf à se résoudre dans de futures guerres. Donc ce discours de la science occidentale rejette cette présence de la chose freudienne et profile l'idéal d'un savoir absolu. Il est aussi donc déterminé par Lacan par une mise en dehors, une forclusion. Cette fécondité de notre science actuelle est à interroger dans cette relation à un aspect qui la soutiendrait, que la vérité comme cause, elle n'en veut rien savoir. Et l'organisation universelle aura à faire avec le problème de savoir ce qu'elle va faire de cette science où se poursuit manifestement quelque chose dont la nature lui échappe. L'avenir nous le dira, dit Lacan. Et peut-être sans se situer dans le fantasme d'une cybernétisation totale ravant l'homme au simple rang d'un appendice, d'un machinisme destructeur à l'œuvre, la place de l'analyste restera peut-être celle de l'éveillé, éveilleur des consciences, pour défendre la place de la subjectivité, du désir, du langage et de la singularité du vivant humain. Le travail de Roland Gori s'inscrit aussi en ce sens. Et il nous rappelle que dans son article « Fragment de l'individu ingouvernable », vous savez qu'il a écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Il nous rappelle que le nouage entre éduquer, soigner et gouverner, ces trois métiers déclarés impossibles par Freud à la veille du naufrage dans la barbarie hitlérienne, met toujours l'existence d'une dimension politique propre à l'Occident. Faust en est la fiction suprême qui se révèle comme une révolte contre Dieu. En se substituant à Dieu, les sciences et la technique copulent avec le diable qui, vêtu des oripeaux de la science du XIXe siècle, offre en échange de l'âme humaine le corps éternel et mécanique que la technique est en passe d'offrir dans la vie moderne. Une chair artificielle. Il faut savoir que la capacité d'altérer l'espèce humaine va aussi aller s'accélérant. Une mutation dans les représentations scientifiques de l'humain est donc aujourd'hui largement en cours. Il nous faut bien maintenir tout de même la distinction entre science et technique et résister à la production marchande d'êtres vivants identiques ou transformés. Notre désir éthique d'analyste se situe là, rester vigilant face aux dérives de l'imaginaire, l'automatisation ne garantissant que le retour du même en miroir, et lutter contre cette chosification perverse de l'humain. Ces mutations, dont accélérées et soumises à l'usage capitaliste des techniques, sont prises dans un emballement maniaque. Le danger est la disparition de la singularité du sujet et le risque de l'entrée des humains dans la mise en série, hein, ce qui a peut-être été inauguré par l'entreprise d'extermination de masse d'Auschwitz. Un Chinois de 45 ans s'apprête à inaugurer le plus grand centre de clonage animal à Tianjin et il se dit prêt pour le clonage humain. Il dit qu'il n'est juste arrêté pour l'instant que par les mentalités. Donc, avec le triomphe d'une société entièrement régie par cette technique, nous dit Roland Goury, le gouvernement de l'individu sera enfin possible par sa disparition ou son effacement au profit des machines interconnectées. Il s'agit d'un véritable totalitarisme de la technique dans la recomposition des métiers et la prolétarisation généralisée de l'existence humaine. Notre époque, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, essayez de prendre l'avion à Charles de Gaulle, voit la dématérialisation des espaces de services publics, hein, remplaçant déjà l'humain, l'être de chair et de langage, l'employé actif dans le contrat social, par la machine. Donc cette normalisation technique est en marche et le système totalitaire s'impose tous les jours davantage. Il est pour Roland Goury cette nouvelle langue du pouvoir. Il l'appelle l'émergence des technofascismes qui menacent notre avenir et nous poussent surtout insidieusement, l'air de rien, à renoncer à notre espace intime, hein, à renoncer à cette sagesse, celle de préserver notre capacité de pensée et de discernement, celle de préserver notre vie psychique et notre intime. Mais une dimension de délire a toujours accompagné la science depuis le début, alimentant les fantasmes imaginaires de toute puissance, de contrôle de l'homme par l'homme. Fantasmes qui ne manquent pas de nourrir l'idéologie en cours aux États-Unis, le transhumanisme. Nouvelle pensée alimentée de fantasmes de maîtrise de la création et de la construction du corps humain qui ont pour but de risquer la vie de l'humanité pour en obtenir le meilleur, hein, donc de sacrifier un certain nombre, avec un projet de créer des hommes avec des capacités augmentées par la machine, tels qu'ils seront qualifiés de post-humains. Il y a de nouveaux objets connectés capables d'augmenter vos potentialités neuronales par stimulation électrique transcrânienne qui vont être très bientôt mises en vente en ligne sans aucun contrôle éthique par Google. Donc, toutes ces demandes adressées aux biotechnologies sont énormes. Des techniques donc, d'accroissement de toutes les potentialités, hein, physiques, intellectuelles. Il y a des projets de créer des corps prothèses à habiter, de libérer la chimie du cerveau, d'hybrider des neurones et des puces, et de numériser des cerveaux qui seraient capables d'habiter de n'importe quel corps, jusqu'à l'ambition de créer aussi de simples corps sans cerveau comme réserve, réceptacle désubjectivé, utilisable par morceaux pour d'autres. Donc voilà, donc tous ces fantasmes, voilà. Au niveau de la procréation, de toutes les demandes de libre marché, j'ai beaucoup développé, des cellules germinales, aussi la disponibilité du sexe et de l'état civil, et des libres parentalités. Une procréation aussi qui a pour ambition de se dégager de la place de la femme en créant aussi des utérus artificiels. Voilà. Donc, par rapport à tous ces projets transhumanistes, il est quand même important de rappeler que le droit français y oppose des obstacles, gardant la priorité à la personne et à l'interdiction de l'atteinte à la dignité de celle-ci. S'agirait-il d'une forme de retour d'une guerre froide dans cet avènement du NBIC, là, nanotechnologie, biotechno, informatique et sciences cognitives, hein, point d'interrogation. Voilà pour le fil de la science qui donne largement à penser. Je vais pas trop fatiguée, suivre avec le troisième fil qui s'est dégagé du travail de mes collègues, qui est le fil de l'extrémisme islamiste. L'islamisme comme devoir de pensée est ce que nous propose Marie-Jean Sauré dans son article Islamisme, un devoir de pensée. Convoquer la logique néolibérale pour rendre compte du terrorisme ne signifie pas dédouaner les auteurs de la responsabilité de leurs actes, auteurs actifs de la destruction. Mais ce que l'on peut constater quand même et qui pose question, c'est que cette expansion accélérée de la raison algorithmique de l'ère technique et digitale s'accompagne en parallèle d'une montée des raisonnements de type mytho-religieux et de l'inflation du nombre des sectes. La civilisation musulmane est en souffrance, déchirée par des guerres civiles évoluant depuis des années. Le monde musulman est entré dans l'ère des fatwas meurtrières depuis la fin des années 30. Elle est en souffrance par des guerres exportées sur leur territoire, par les séquelles des traumatismes des guerres coloniales précédentes, et notamment de la guerre d'Algérie, par tous ces deuils non faits du passé, et par exemple aussi celui du califat. Ces situations de désolation et de désordre favorisent l'émergence de nouvelles idéologies avides de pouvoir et de crimes, de nouveaux monstres apparus depuis la fin de la guerre d'Irak et qui utilisent les ressorts du discours sectaire pour embrigader un plus grand nombre et semer la haine et la terreur dans les régions géographiques, dans des guerres de conquête et à distance dans un désir de déstabiliser l'Occident et de le pousser à la guerre. Exportant donc toutes ces querelles politiques constantes entre eux, qui ne sont pas nouvelles, entre sunnites et chiites, sur la légitimité du pouvoir. Cette radicalisation islamique prend aujourd'hui la dimension d'une véritable épidémie, dit Tif Ben Slama, qui en analyse dans son article les ressorts subjectifs. Son titre, Subjectivité et politique de la déradicalisation. Donc, la définition de la radicalisation est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la radicalisation n'est plus spécifique aux classes populaires et à la banlieue. Notamment, il y a eu des chiffres aussi au Canada, c'est plutôt dans les classes d'enfants et lieux des milieux aisés. On assiste aussi à une extension du phénomène à la classe moyenne et à une augmentation de la proportion des femmes, environ 30%. Les processus de ségrégation mis en causalité par Marcos Zafiropoulos, qui est sociologue aussi dans son travail, lié à notre malaise social, aboutissent pour lui à une pathologie de l'idéal et du surmoi, ce qui crée toutes ces pathologies de l'acte, du côté d'une pathologie de l'acte, que représentent un ensemble de troubles, les troubles du comportement alimentaire, toutes les addictions diverses. Et ce virage de l'acte terroriste chez l'individu malade de son surmoi. Un surmoi de poche, dit Marie-Jean Sauré, qui a présenté ce travail avec moi à Toulouse début juillet. Surmoi en place de l'éthique, que l'on trouve même vendu en kit sur Internet, vecteur possible donc de haine et d'intériorisation du fascisme. Fethi Ben Slama avance le terme de surmusulman, du fait de cette pathologie de surmoi, terme sur lequel je ne suis pas forcément d'accord parce que ça focalise trop sur le terme musulman aussi, à mon avis. Bon. Il y a différents paliers qui conduisent du terreau social à la radicalisation, à l'extrémisme, puis au terrorisme. La moyenne d'âge en France est de 25 ans pour les hommes et de 26 ans pour les femmes. Des jeunes, je me suis dit, qui avaient une dizaine d'années au moment des Twin Towers, et qui sont en fin d'adolescence. Y a-t-il un lien? C'est la question que je me suis demandée. La masse, dit Freud, n'est excitée que par des stimuli excessifs. Et dans son texte Psychologie des masses et analyse du moi, il constate à la suite du penseur Le Bon cette facile suggestibilité des masses qui permet et encourage et développe cette contagion avec deux mécanismes à la clé. Le premier, par augmentation de l'affectivité, et le deuxième, l'inhibition de la pensée, restreignant le rendement intellectuel, qui peuvent expliquer la suggestion réciproque des individus et la sensibilité particulière au prestige des meneurs en effaçant la singularité. Le djihadiste adhère à une croyance collective très large, celle du mythe identitaire de l'islamisme, actuellement dans un dérèglement suicidaire. Donc, cette offre radicale s'appuie et se saisit des impasses de la traversée de l'adolescence, une période avide d'idéaux pour ces jeunes qui tentent de s'appartenir en se réinventant et dans un remaniement de l'identité. Alors, l'offre arrive toute prête en offrant un horizon mêlé d'idéal et de romantisme d'un Orient mystérieux. Beaucoup s'y laissent se prendre. Elle crée une demande dans un état de fragilité identitaire qu'elle transforme en puissante armure. Un certain nombre de jeunes présentent des troubles qu'on appelle borderline, les états limites, ces troubles frontières entre la psychose et la névrose. Et au moins un tiers présentent des conduites et des discours psychotiques. Donc cette offre touche particulièrement ceux dont le passage adolescent est difficile par suite de défaillances environnementales et de failles personnelles. Passage sur lequel il nous faudrait peut-être œuvrer et créer de quoi leur offrir un autre horizon qui soit du côté de la vie. Voilà, donc ce numéro m'a permis de faire un état des lieux du monde. Voilà. Il faut du temps aux petits hommes pour se civiliser, pour dépasser la haine qui est première et qu'avait montré Mélanie Klein chez l'homme. Haine première pour pouvoir s'ouvrir à l'altérité, découvrir qu'il y a de l'autre, s'ouvrir à l'amour et s'ouvrir à la joie. Il faut aussi du temps à l'humanité pour se civiliser. Freud avait comparé le cheminement de l'humanité comme un cheminement parallèle au développement d'un homme. Dépasser aussi la haine pour œuvrer à son accomplissement et à son rayonnement. Notre civilisation, elle est plus puissante et créatrice que jamais, mais elle est aussi plus menacée, car elle ne dispose plus de... J'ai fait un travail d'écriture avec un homme qui avait été déporté à l'âge de 15 ans et qui me disait « nos démocraties sont endormies ». Voilà. Donc nous sommes un peu endormis sur nos lauriers. Et elle ne dispose plus, ça c'est la pensée de René Girard, du garde-fou du religieux archaïque pour lui. Toutes ces petites sociétés archaïques avaient trouvé une solution pour décharger les pulsions destructrices. C'était celle du sacrifice qui permettait de canaliser toutes ces pulsions, de canaliser la violence sur une victime émissaire, permettant de transformer leur violence réciproque en une polarisation de tout ce contraint. Or, aujourd'hui, toutes les folies privées se déchaînent, les petites folies privées. Cette montée aux extrêmes est servie aussi par la science ou la politique, appuyée par des pseudo-discours religieux ou populistes. Les massacres de civils auxquels nous assistons sont autant de ratages sacrificiels, dit-il, et nous ne pouvons que constater l'infécondité croissante de cette violence, incapable de tisser le moindre mythe pour se justifier et rester souterraine et rester cachée. Nous forçant tous à vivre dans le réel aux abords du symbolique et aux abords aussi de la vie et de la mort. Serions-nous, comme l'on dit, dans un choc de civilisation ou bien plutôt, à mon avis, dans une crise existentielle de l'humanité dans son évolution qui se retrouve à un moment décisif où elle a aussi le choix d'orienter son devenir. Nous savons que nos ressources sont limitées, que cette planète n'est pas extensible, qu'elle peut être même plasticable, comme l'avait suggéré Heidegger, et que la consommation et l'expansion à l'infini est un mensonge, et que le discours rationnel a lui aussi peut-être ses limites. Nous avons les moyens techniques de tous nous exterminer jusqu'au dernier, avait déjà constaté Freud, ce qui alimente aujourd'hui le fantasme de certains d'une fin apocalyptique du monde, une purification totale, voire même par disparition du monde et avènement du règne d'un autre monde, que décrit Fethi Ben Slama dans ce projet dédié à djihadistes. Une apocalypse certes mélancolique, mais sans une jouissance anticipée de la victoire définitive de l'islam. Ce délire du ciel ne peut exister sans un désespoir de la terre et des hommes, nous dit-il aussi. Or, ce que l'on constate aujourd'hui dans le monde, c'est une efflorescence de délire, une expansion des discours de haine, des discours d'embrigadement idéologique, des discours de paroles fausses, ne pouvant conduire qu'à la violence. Hannah Arendt avait écrit quelque chose dans ce sens. Ce principe de mort va-t-il s'épuiser tout seul et ouvrir sur autre chose, ou bien est-ce une fatalité ? Allons-nous avoir le courage d'identifier ces racines de la haine et de la guerre pour tenter de remédier aux catastrophes en cours et à venir ? Le psychisme humain a besoin de paroles vraies pour pouvoir faire confiance en la vie, à un autre humain, en la rencontre avec l'autre. Et dans certaines régions du monde, la jeunesse n'a jamais connu la paix. Cela donne des êtres humains ne se sentant pas appartenir au monde des humains. Mon confrère Olivier Douville, qui travaille beaucoup en Afrique, a écrit un article après sa rencontre sur le terrain d'enfants soldats au Burkina Faso et au Congo. Des enfants qui n'ont jamais connu la paix, donc... Le monde peut être ouverture à la rencontre qui me sort de moi-même, peut être rencontre à l'amour, au désir, à la créativité et à la poésie. Lacan, qui sentait venir ce monde de haine, nous a invités plusieurs fois dans son séminaire L'éthique à nous ouvrir à la pensée chinoise confucéenne, celle de Mengzi, Mencius dans le nom latin, donc d'aller puiser dans les archives de cette mémoire du monde, de cette civilisation cinq fois millénaire, qui pourrait nous guider pour faire cheminer la civilisation vers un meilleur vivre ensemble, vers le respect de la dignité de l'humain dans l'organisation du monde, de façon à peut-être pouvoir habiter l'humanité. Dans le terme que Confucius utilisait, le terme de l'hygiène. Ce que je suis en train de penser là, le l'hygiène, les caractères chinois, ça s'écrit avec deux caractères accolés. Le premier symbolise l'homme et le deuxième symbolise le chiffre 2. L'homme ne devient humain que dans une relation à autrui. La société ne se construit que dans une relation à l'autre. Ce qui se passe avec cette efflorescence de la technique et de la machine, c'est qu'on est en train de supprimer le « deux ». L'homme va être tout seul avec de la machine. Donc, les structures mêmes de nos sociétés sont en désagrégation. Donc, cette technique ne pourra pas tout, au risque de voir se développer de plus en plus d'idéologies alternatives. Et la plus intéressante percée du XXIe siècle face au grand défi mondial qui nous attend sera d'avoir à préserver et approfondir la démocratie. Et cela pourrait advenir non pas par la technologie, mais par l'approfondissement du concept de ce que signifie être humain.